Eh bien, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être venus pour la troisième semaine consécutive, courageux et courageuses. Alors, la première semaine de cette série, on avait parlé des femmes d'Henri VIII, de ces six femmes. La semaine dernière, on a parlé, vous avez bien révisé votre Ancien Testament et on a parlé de la crise de foi FOI d'Henri. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des enfants d'Henri. Pour finir la série, et ou tout au moins de ses enfants légitimes, donc les enfants Tudor, hein, puisqu'ils portaient le nom de Tudor. Je passerai quand même rapidement sur ses enfants illégitimes, puisque bon, ils ont existé et qu'il me semblait juste de leur faire honneur, mais comme vous le savez, de toute façon, ils n'avaient aucun accès au trône d'Angleterre. Alors le concept de famille recomposée, puisque c'est vraiment le cas chez Henri VIII, Henri Tudor, en fait n'est pas une idée nouvelle, hein, puisque on a l'exemple de ses enfants, six femmes, trois enfants avec trois femmes différentes. C'est un modèle très contemporain finalement. Et que dire d'une famille dont seul le père est commun? Et dont la fratrie issue de ce père est composée d'une justification d'enfant unique, puisqu'on a trois enfants et trois femmes différentes. Donc, comme je l'ai dit, seuls les enfants légitimes sont à même de monter sur le trône, et ces trois enfants, dans l'ordre de naissance, Marie, qui deviendra Marie Tudor, Élisabeth, qui deviendra Élisabeth Ière, et Édouard, qui deviendra Édouard VI d'Angleterre, n'ont pas été élevés ensemble, comme c'était l'usage à l'époque. Ils étaient placés, j'allais dire, dans des familles avec des nourrices, avec tout un, comme on dirait à l'heure actuelle, avec tout un staff, avec toute une équipe et presque une cour autour d'eux, qui leur dispensait éducation et bons soins. Et on rassemblait en fait ces enfants lors de fêtes importantes. Alors la plus importante chez les chrétiens étant Pâques et ensuite Noël. Donc souvent, il nous est parvenu dans les archives des mentions de cadeaux qui pouvaient s'échanger. Par exemple, Élisabeth comme cadeau pour sa quatrième belle-mère, Catherine Parr, la sixième femme d'Henri, lui avait brodé la couverture d'un manuel de dévotion, hein, ce genre de choses, où ils vont traduire aussi, des textes. Je pense plutôt à Élisabeth, puisque c'était la plus à même de traduire. Donc, comme je disais, je vais m'attarder quand même quelques instants sur les enfants illégitimes d'Henri, même si ceux-ci n'ont aucune possibilité légale d'accéder au trône. Et ensuite, je me tournerai, alors non pas dans l'ordre de chronologique de naissance, mais plutôt dans l'ordre chronologique de règne vers les enfants. C'est-à-dire, on prend les choses à l'envers, d'abord Édouard, ensuite Marie, et pour terminer, Élisabeth. Pardon. Bon, évidemment, que les puristes me pardonnent, en une heure, je n'aurai pas le temps de parler en détail des trois règnes, et certainement pas du règne d'Élisabeth, puisqu'elle a quand même régné 45 ans. Donc, je vous donnerai... j'ai fait un choix complètement arbitraire, des événements qui m'intéressent. Bon, ce qui m'intéresse le plus, c'est les événements religieux, donc j'avoue que j'ai un petit peu laissé de côté, notamment chez Élisabeth, tout ce qui était... conquête navale, hein, je pense à l'invincible armada, tout ce qui est conquête militaire. Bon, vous me pardonnerez. Alors, ce que je voulais en fait montrer dans cette brève présentation des enfants Tudor, c'est bien sûr leur destinée royale et les temps importants de leur règne, mais aussi montrer comment, malgré tous les ors qui les entourent, finalement c'était des gens comme vous et moi, des gens tout à fait normaux qui souffrait aussi. Je pense à Marie, qui a une vie quand même assez difficile, une vie personnelle assez difficile. Finalement, c'était des gens comme vous et moi, qui avaient des moments fastes et d'autres moins fastes. Bon, mais avant d'en parler, un peu de suspense, et je vais m'attarder donc sur les enfants illégitimes d'Henri. Alors, en ce qui concerne ces enfants illégitimes, bon, on sait qu'il en a eu plusieurs, hein, je vous l'avais dit, mais finalement, pas tant que ça, toute proportion gardée par rapport à d'autres monarques. Je pense notamment donc au plus connu, celui que je vous présente ici, Henry Fitzroy, me semble vous en avoir parlé, enfin je suis sûre de vous en avoir parlé la première semaine. Henry Fitzroy, qui naît vraisemblablement le 15 juin 1519 de sa relation avec Elizabeth Bessie, hein, pour son diminutif Bessie Blount, la maîtresse, la première maîtresse vraiment connue, enfin celle qui a duré quand même assez, qui a été maîtresse régulière à l'époque avec Henri. Je dis qu'il est né le 15 juin 1519, on n'est pas sûr exactement de sa date de naissance, puisqu'évidemment, étant enfant illégitime, il n'était pas question d'en parler ouvertement. Donc, en fait, les historiens ont fait des recoupements, et entre les voyages de Thomas Wolsey, qui était Lord Chancelier à l'époque, et divers échanges de courriers, on en a déduit que c'était la date de naissance de cet enfant-là. Il s'appelle Henry Fitzroy, Henri comme son père, hein, en toute humilité, et Fitzroy, le fils du roi, puisque c'était donc une façon pour Henri de vraiment marquer cet événement en lui donnant le nom de fils du roi. Donc si vous, entre parenthèses, si vous rencontrez des gens qui s'appellent Fitzgerald, Fitzroy, ce sont des fils de Gérald, fils du roi, etc. Voilà, donc Bessie Blount, sa maîtresse, est envoyée bien évidemment loin de la cour pour accoucher, hein, et on va baptiser cet enfant, secrètement aussi. Donc comme je vous le disais, rien n'est clairement affiché et rien n'apparaît dans les archives officielles malheureusement. On sait peu de choses de Bessie Blount, si ce n'est qu'elle était d'une grande beauté, hein, d'une beauté sans pareille, et c'est tout au moins ce qui transparaît dans les témoignages d'époque, car il ne nous est malheureusement parvenu aucun portrait d'elle, de son vivant, ou même post-mortem, donc ça c'est fort dommage, mais bon, on sait qu'elle était très très jolie. Et Henri l'a, une fois de plus, rencontrée à la cour, entre 1514 et 1515, et elle est, je vous le donne en mille, demoiselle d'honneur de la première femme d'Henri, c'est-à-dire demoiselle d'honneur de Catherine d'Aragon. Je vous avais dit, hein, première fois qu'on s'est rencontrés, qui recrutait localement, c'est toujours le cas pour ses femmes et pour ses maîtresses. Et on ne connaît pas non plus l'année de naissance de Bessie Blount, mais on sait qu'elle serait née entre 1498 et 1502, ce qui lui fait à peu près 10 ans de moins qu'Henri. Donc elle était très jeune quand elle a rencontré Henri. Alors, voici Henry Fitzroy, son fils, jeune. On voit qu'il ressemble plutôt à son père, bon, très clair de peau. L'image est affadie, enfin, la couleur est passée. Là, c'est un portrait de Henry Fitzroy plus âgé. Il n'a pas vécu très très longtemps, mais bon, il est assez jeune. Donc, vous voyez sur le portrait, est-ce que vous voyez ça là ? Oui. Donc, Henry, duc de Richmond. Son père, quand il naît, Henri VIII accorde le titre de duc de Richmond et de Somerset et comte de Nottingham bien après sa naissance, puisqu'en 1525. Donc offrir un duché n'était quand même pas un acte gratuit, hein, c'était pas un acte sans importance, car il s'agit du plus haut titre de noblesse avant celui de prince, et c'est bien le signe qu'Henri VIII accordait une grande importance à son fils, bien qu'illégitime, c'était son premier fils né finalement. Hein. Il est la preuve vivante qu'Henri peut avoir un fils, et ça c'était très important pour lui, puisqu'on sait les troubles hein, que le couple Catherine d'Aragon Henri VIII traversait à l'époque. Donc ça c'est quelque chose d'important. On sait aussi que Henri VIII et Bessie Blount ont entretenu une relation pendant à peu près 8 ans, et que c'est Marie Boleyn qui va lui succéder rapidement après la naissance du petit Henri dans le rôle de favorite du roi. Sans qu'on sache réellement pourquoi Bessie Blount a été évincée, on sait que bon bah elle est partie accoucher, puis finalement Henri devait s'ennuyer, donc il a trouvé occupation ailleurs dans les bras de Marie Boleyn. Et Bessie et Marie Boleyn finalement n'obtiennent jamais le titre officiel de maîtresse en titre, hein, titre qu'on pouvait obtenir dans les diverses cours royales d'Europe. Elles n'ont jamais été officiellement maîtresse en titre. Et ironie des choses, c'est un titre qu'il a proposé à Anne Boleyn quand il l'a rencontrée, et c'est un titre qu'elle a refusé de porter puisqu'elle voulait se marier. Elle voulait se marier et devenir reine. On avait déjà évoqué ces raisons lorsque je vous ai présenté ces femmes. On sait que à l'âge de 14 ans, Henri Fitzroy se marie et il épouse une fille de duc, hein, une jeune femme de haute noblesse. Et on sait aussi que ce mariage n'est jamais consommé et qu'il meurt très jeune. Je vous l'ai dit, il va mourir en 1536 à l'âge de 17 ans, ce qui n'était pas très rare à l'époque. Il est mort également vraisemblablement de tuberculose. Et c'est intéressant, ce qui est intéressant, c'est de faire le recoupement, puisque l'autre fils d'Henri, Édouard VI, meurt également très jeune de tuberculose. Mais malgré tout, Henri Fitzroy était déjà le fils de son père, j'allais dire, vous me pardonnerez l'expression, puisqu'il a quand même laissé derrière lui deux enfants illégitimes, deux filles, et puisque ce sont des filles, elles ne peuvent pas porter le titre de duc, et le titre de duc revient à la couronne d'Angleterre. Donc la boucle est bouclée, et même si finalement Henri VIII avait qu'il y aurait une suite, finalement, en mourant très jeune, Henri Fitzroy ne permet pas au titre de duc de survivre. Alors, voilà pour Henry Fitzroy. On sait que Henri VIII aurait eu d'autres enfants. Bon, alors là, on est un petit peu moins sûr des sources, mais on sait qu'il a eu une fille avec Marie Boleyn. Voilà Marie Boleyn. Très jolie Marie Boleyn, hein, comme sa sœur. Donc la sœur d'Anne Boleyn, et la fille qu'il aurait eue avec lui s'appelle Catherine Carey, dont le portrait se trouve à droite de l'image. Alors là, c'est un portrait adulte, hein. Elle a eu 14 enfants, cette brave femme. mais il n'a jamais reconnu Catherine, hein, comme sa fille, même illégitime, hein, au contraire d'Henri Fitzroy. Et c'est pourquoi Catherine va porter le nom de son père adoptif, tout au moins du mari de sa mère, si vous me suivez, du mari de Marie Boleyn, donc qui s'appelait Sir William Carey. Catherine Carey est finalement la cousine germaine de la future première et de la future Élisabeth Ière d'Angleterre. Donc tout ceci est une petite famille. Bon, je vais pas m'éterniser sur sa vie, mais Catherine Carey meurt en janvier 1569, donc après s'être mariée, avoir eu de nombreux enfants. Et pour la petite histoire, parce que moi j'aime bien les petites histoires, c'est une des ancêtres de princesse Diana. Vous savez, la princesse de Galles, première épouse du prince Charles. Voilà. Voilà, donc pour la fille légitime de Marie Boleyn. On sait qu'Henri VIII aurait eu 5 autres enfants jamais reconnus officiellement et puis qui n'ont pas survécu très très longtemps. Voilà, donc voilà pour ce qui concerne les enfants illégitimes. Je voudrais maintenant me tourner vers ceux qui sont les plus connus, hein, les 3 enfants légitimes d'Henri, c'est-à-dire Marie, Élisabeth et Édouard. Et comme je vous l'ai dit, je vous les présenterai dans l'ordre inverse, puisqu'ils n'ont pas régné dans cet ordre-là. Et à ce sujet, j'aimerais quand même clarifier en 2 mots l'ordre de succession, puisqu'il ne correspond pas à l'ordre de naissance, et dire pourquoi finalement 2 femmes ont pu monter sur le trône d'Angleterre. Alors la loi en vigueur à l'époque est ce qu'on appelle la primogéniture masculine. C'est un grand mot pour dire que celui qui va monter sur le trône, ce sera le premier-né mâle. Et il n'y a pas de loi salique, je vous avais expliqué, on en avait déjà parlé. Et alors il ne faut pas confondre loi salique et primogéniture masculine, qui sont 2 choses un peu différentes. La loi salique étant permettant d'éliminer complètement les femmes de la succession sur le trône, y compris les filles du souverain décédé, ce qui n'est pas le cas pour la primogéniture masculine. Donc c'est pour ça que future Marie Tudor et Elisabeth ont pu monter sur le trône. À la mort d'Henri, cependant, ce sera Édouard qui va monter sur le trône d'Angleterre. C'est le 3e né légitime d'Henri, son seul garçon légitime. Alors voici Édouard, un joli bébé, je trouve que c'est un très joli portrait, bien joufflu, il ressemble beaucoup à son père, blond vénitien, la peau très très claire, Henri était assez roux, enfin roux, blond vénitien voire roux, et on voit bien la ressemblance je trouve avec, avec son père sur cette photo. Sa mère aussi était très claire de peau, vous vous souvenez que je vous avais dit que Jane Seymour, donc la troisième femme d'Henri, était d'une beauté sans pareil. Le terme est mal choisi, mais la beauté d'une femme à sa couleur de peau, plus elle était pâle, plus elle était jolie, et c'était le cas de Jane Seymour, et qu'Henri appelait également ma rose sans épines. Donc voilà. Donc Édouard VI, joli bébé en 1539, lui il est né le 12 octobre 1537, vous vous souvenez que sa mère est morte quelques jours après l'accouchement. Et Édouard monte sur le trône en étant couronné Édouard VI d'Angleterre. Il sera le premier roi protestant anglais et le dernier roi Tudor. En fait, on a eu trois rois Tudor, Henri VII, Henri VIII et Édouard VI. Et à la mort d'Henri, le 28 janvier 1547, les proches du roi, donc les conseillers proches du roi, décident de garder le secret, de ne pas rendre la nouvelle publique, et ils décident d'organiser correctement la succession sur le trône. On va emmener Édouard à Enfield, dans un palais un petit peu éloigné de Londres. C'est un palais où vit la princesse Élisabeth, et on va leur apprendre la nouvelle. On va leur dire que leur père est décédé. Marie est à cette époque bien loin, puisque vous savez qu'à la suite de l'histoire du divorce, elle est évincée et Henri a très peu de contact avec elle. Donc on leur apprend la nouvelle et on va leur lire le testament d'Henri VIII. Le Lord Chancelier de l'époque étant Thomas Wriothesley, qui était un catholique, un fervent catholique, ennemi notamment de la dernière femme d'Henri VIII, Catherine Parr, qui avait des amitiés avec les protestants. Le Lord Chancelier informe le Parlement de la mort d'Henri le 31 janvier et l'on proclame le couronnement d'Édouard. Alors on va emmener Édouard à la Tour de Londres. Alors c'était très commode la Tour de Londres parce que c'était aussi bien un endroit où on enfermait les gens, on les emprisonnait, on les décapitait à l'occasion, hein, Anne Boleyn, ou un endroit où on les emmenait pour des cérémonies plutôt publiques et joyeuses. Donc on va emmener Édouard à la Tour de Londres. Il y est accueilli en grande pompe et alors là je vais essayer d'être claire puisqu'il y a Édouard VI et son oncle Édouard Seymour qui rentre en scène. L'oncle d'Édouard VI, Édouard Seymour, est nommé protecteur du jeune Édouard VI, et Henri est enterré à Windsor le 16 février aux côtés de Jane Seymour, la mère d'Édouard VI, selon ses dernières volontés. Alors, il avait dit qu'il voulait être enterré auprès de finalement ce qu'on peut considérer le seul amour de sa vie. Alors, dans la famille Seymour, dans la mère d'Édouard VI, il y a Jane, donc, qui était morte en couche, Thomas Seymour, dont on parlera un peu plus tard, et Edward Seymour, qui est donc nommé protecteur d'Édouard VI. Édouard est couronné, il est couronné à Westminster le 20 février de cette même année, et on va adapter la longueur de la cérémonie du couronnement, puisque ces cérémonies-là étaient extrêmement longues, et on se dit qu'un enfant de son âge, puisqu'il a 9 ans, va pas résister à la longueur, donc on va réduire la longueur de cérémonie à cause de l'âge du jeune roi, ce qui était plutôt, je pense, agréable pour tout le monde. On dit d'ailleurs... qu'en route pour Westminster, il avait 9 ans, c'était un enfant, il se serait amusé en voyant un fil de ferriste sur le bord de la route en train d'amuser les foules, parce qu'il faut bien visualiser la scène, hein. Il y avait beaucoup de monde, c'était la liesse, les gens étaient très heureux, le roi est mort, vive le roi, le jeune roi monte sur le trône, donc tout le peuple est en joie, et il y avait des funambules, des jongleurs, des fils de ferriste, et Édouard, finalement, une réaction d'enfant en voyant tous ces gens-là être heureux de son arrivée. Donc c'est assez bien documenté, hein, on a des témoignages d'époque, ce qui est assez agréable à lire. Mais malgré tout, Il a beau avoir 9 ans, il a beau être un enfant, il est roi, et il va falloir qu'il assume ses responsabilités de roi. Et pendant le couronnement, Thomas Cranmer, qui avait marié Anne Boleyn et Henri, vous vous souvenez, Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, la plus haute instance religieuse en Angleterre, et aussi Thomas Cranmer, fervent protestant, va demander à Édouard d'affirmer la suprématie royale et encourage le jeune roi à poursuivre la réforme qui avait été mise en œuvre en Angleterre, la réforme de l'Église bien sûr, hein, qui avait été mise en œuvre par lui-même notamment. Et il va demander à Édouard de bannir, alors ce qu'il appelle la tyrannie des évêques de Rome, c'est-à-dire la tyrannie des papes, c'est-à-dire la suprématie des papes, hein, et de continuer à œuvrer en faveur de la suprématie royale pour continuer à être chef suprême de l'Église d'Angleterre. Alors évidemment, il est jeune, très jeune, à 9 ans, on est incapable de gérer les affaires du royaume tout seul, et on va nommer un protecteur en la personne de son oncle Edward Seymour. Alors il est... Voilà, le voilà. Donc, son oncle, frère de sa mère. Alors, Edward Seymour est né en 1500, hein, et il a survécu jusqu'en 552. Mais je voulais vous montrer avant un autre... Là, c'est un tableau, en fait, qui montre une allégorie de la réforme. Alors, à gauche... Voilà, à gauche... C'est Henri, alors Henri bien mal en point dans son lit, hein, en train de mourir, qui va passer le relais à son fils, Édouard, là qui est assis sur le trône, et il écrase, Henri écrase le pape, qui lui-même écrase le clergé. Vous voyez comment ça marche ? D'accord ? Et puis il est vraiment écrasé, le pape. Hein. Donc il est représenté en tant qu'évêque, et là, les pauvres membres du clergé, les pauvres moines sont bien mal en point. À droite, on voit les conseillers d'Édouard qui siègent et qui l'aident, et ici, un portrait de son protecteur, c'est-à-dire Edward Seymour, qui conseille le jeune Édouard. Et au deuxième plan, on voit, et là c'est en relation avec ce que je vous disais sur Thomas Cranmer, au deuxième plan, on voit les icônes, les gens qui brûlent les icônes, qui brûlent les images pieuses. Hein. C'était un grand symbole de l'Église d'Angleterre et du protestantisme. Hein. Tout ça, c'était considéré comme de la superstition, ça n'avait aucun intérêt. Enfin, pour eux, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc ça c'est une allégorie assez connue que vous avez sûrement vue si vous intéressez à la période. Bon, c'est dommage parce que c'est anonyme, on aurait bien, enfin on se doute bien que c'est un protestant qui l'a peinte, mais ça reste anonyme. Alors retournons-nous vers Edward Seymour. Alors, on l'a nommé à la mort de... Enfin, une fois Édouard monté sur le trône, mais en fait, dans les faits, Henri, évidemment, se savait malade. Et lui, dans son testament, il avait nommé explicitement 16 exécuteurs testamentaires pour agir au sein du conseil d'Édouard. Il s'était dit, justement, j'ai pas envie qu'une seule personne le conseil, je préfère diviser pour mieux régner, et je nommerai 16 personnes. C'est sûrement pour ça qu'il n'a pas nommé Catherine Parr régente, par exemple, d'Édouard. Donc, le testament d'Henri est très controversé, puisque on a accusé les proches du roi qui était malade, on dit qu'il perdait un petit peu la tête, bon, que ce soit dû à la douleur ou à l'âge, on ne sait pas trop, mais on suspecte ses proches d'avoir manipulé le texte et surtout d'avoir manipulé le roi dans ses choix, voire de lui avoir fait signer des choses sans qu'il sache ce qu'il était en train de signer. Bon, quoi qu'il en soit, le fait est que le fruit que ce soit le fruit de décisions mûrement réfléchies ou non, le conseil privé d'Édouard est composé en 1546 de proches, finalement il est composé de gens proches des idées de la réforme. Alors c'est là qu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment Henri qui a toujours été catholique qui a composé le conseil ou s'il a été influencé. Et finalement les proches d'Henri se sont bien débrouillés, puisque, enfin, les proches protestants d'Henri se sont bien débrouillés, puisque même dans les derniers mois de sa vie, aucun catholique n'arrivait à approcher Henri VIII. On va s'assurer également que dans le testament d'Henri, on aura une clause qui permettra de distribuer des cadeaux, entre guillemets. En gros, les conseillers vont s'octroyer le droit de distribuer ou de se distribuer des terres, des titres, des honneurs. Donc, bon, c'est une période assez trouble et on ne sait pas si c'est vraiment Henri qui a décidé de tout ça. Et au final, Edward Seymour, donc vous voyez ici, va profiter de tout ça, il en profite grassement, puisqu'il va devenir Lord Protecteur du Royaume, c'est-à-dire chef du gouvernement et duc de Somerset. Alors que le testament d'Henri, comme je vous le disais toujours, n'a jamais stipulé que le protecteur, n'a jamais stipulé qu'il n'y aurait qu'un seul protecteur, mais plutôt qu'il y aurait un conseil qui aiderait Édouard dans son règne, et ce jusqu'à sa majorité. Donc c'est là que le trouble est un peu semé. Et ce conseil à la mort d'Édouard, donc parmi les 16 personnes, 13 conseillers vont voter en faveur du protectorat d'Edward Seymour. 3 n'ont pas voté tout simplement parce qu'ils n'étaient pas là. Donc les absents ayant toujours tort, les autres ont voté en faveur d'Édouard. Et ils se mettent d'accord donc pour désigner Seymour leur protecteur juste après la mort d'Henri. Donc sans rentrer dans les détails, puisqu'on pourrait rentrer dans de nombreux détails de factions, etc., de choses politiques, Edward Seymour, donc duc de Somerset, on connaît souvent son protectorat sous le nom de protectorat de Somerset. C'est pour ça que Seymour Somerset, c'est la même personne. En fait, il avait tous les pouvoirs d'un roi. Il s'était octroyé tellement de pouvoirs que lui, à part le fait qu'il n'était pas le roi, il pouvait pratiquement tout faire. Et en cela, il va être vivement critiqué par son frère, Thomas Seymour, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui va l'accuser tout simplement d'abus de pouvoir. Et Thomas se dit, tiens, finalement, mon frère a le droit de gérer les affaires du royaume, il est presque le roi dans son royaume, mais pourquoi moi j'aurais pas la part du gâteau? Donc il va demander, Thomas Seymour va demander le partage du protectorat. En tant que deuxième oncle du roi, ce qui lui semble tout à fait légitime. Alors évidemment, vous vous doutez bien qu'Edward Seymour n'est pas d'accord, hein. Les deux frères vont se fâcher et Edward Seymour va refuser et tenter d'acheter son frère en lui octroyant des titres, et notamment un titre de baron, mais Thomas Seymour ne l'entend pas de cette même oreille, et lui, au lieu de continuer à se battre contre son frère, va plutôt se rapprocher du roi en tentant d'influencer le jeune roi. Convaincre finalement cet enfant de régner seul. Alors pas tout de suite, mais lui dire dans les 2 années à venir, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez régner tout seul. Mais le roi refuse, hein, il est extrêmement proche de son protecteur et il refuse. Thomas Seymour est, pour vous resituer un peu l'histoire, il va épouser au printemps 1547, donc quelques mois après la mort d'Henri VIII, il va épouser Catherine Parr, la 6e épouse d'Henri VIII. Alors, il l'épouse au printemps, sachant qu'Henri est mort fin janvier. Ils n'ont ni l'un ni l'autre respecté le délai naturel, c'est-à-dire le délai de 9 mois, puisque on ne devait pas, la veuve du roi ne devait pas épouser, se remarier avant un délai de prescription. Elle aurait pu être enceinte du roi, elle aurait pu donner un autre héritier à la couronne. Donc, quoi qu'il en soit, il se remarie malgré l'opposition d'Edward Seymour. Et c'est d'ailleurs Catherine Parr mourra en couche l'année suivante, en 1548. Dans l'entourage de Catherine et de Catherine Parr, et aussi donc dans l'entourage de Thomas Seymour, se trouvent plusieurs personnes, et notamment une personne importante qu'on appelle Lady Jane Grey, qui était une cousine au deuxième degré et qui, elle, avait 11 ans à l'époque. Je vous en parle puisqu'elle reviendra un peu plus tard sur le tapis, j'allais dire. Et Lady Jane Grey se trouve également la princesse Elizabeth, qui est très jeune également. Il me semble qu'elle a 13 ans, il faudrait refaire les calculs, mais elle est très très jeune. Comme je vous l'ai dit, Catherine se trouve enceinte et en été 1548, et une fois de plus pour la petite histoire, parce que j'aime bien les petites histoires, elle va surprendre son mari Thomas Seymour et la jeune Elizabeth, oui voilà, donc alors âgée de 13 ans, ensemble. Thomas Seymour en a quand même 39. Alors, quand on vous dit que Élisabeth Ière était surnommée la Reine Vierge, je pense qu'elle n'a de vierge que le nom, puisqu'elle elle a quand même pas chômé la jeune reine. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la petite histoire. Donc Catherine va mourir un peu plus tard, en 48, elle va mourir en couche, et Thomas Seymour, son mari, va demander Élisabeth en mariage. Et finalement, à l'époque, Élisabeth ne semble pas si opposée à ce mariage, hein, elle est encore très jeune. Ce qui est intéressant quand on sait qu'elle a toujours refusé de se marier plus tard. Et Edward Seymour, donc le protecteur, va s'opposer catégoriquement à ce mariage et il va se débrouiller pour faire arrêter son propre frère et le faire accuser de trahison et aller jusqu'à l'exécution, puisqu'il est exécuté le 20 mars 1549. Donc, Edward Seymour se débarrasse de son frère, hein, qui aurait pu mettre en danger son protectorat, pour bien pouvoir profiter de toutes ses prérogatives. Et c'est à cette même période que l'Angleterre connaît diverses révoltes, notamment des révoltes pour dénoncer l'abus des propriétaires terriens. Et donc ça, c'est d'un point de vue, j'allais dire, financier, et d'un point de vue religieux, des révoltes où des mouvements, puisque, enfin, il fallait rester prudent, hein, révolte, ça voulait dire forcément trahison voulait dire forcément punition, voire exécution. Donc on va dire des mouvements s'opposant à l'imposition du livre de prière commune dans les églises, ou tout simplement ce qui correspond au missel chez les catholiques, le livre de prière commune étant le livre qu'on utilise pour la liturgie chez les protestants. Bon, je rentrerai pas là non plus dans les détails, mais quoi qu'il en soit, le protectorat est mis à mal par tous ces mouvements d'opposition et il est affaibli. Et Edward Seymour, duc de Somerset, est déchu de ses fonctions par le Conseil. Et en février 1550, c'est cet homme-là, voilà, qui entre en scène, John Dudley, qui est nommé duc de Northumberland en 1551 et qui va prendre la place d'Edward Seymour dans le rôle de protecteur, de Lord Protecteur. Edward Seymour, lui donc, à la suite de toutes ces de sa chute, va être accusé, va subir un procès, il va être exécuté en janvier 1552, et Édouard écrit même dans son journal de façon très détachée, je cite, « Le duc de Somerset a eu la tête coupée entre 8h et 9h ce matin. » Fin de citation. Voilà, donc les choses sont très claires. Donc il est entre les mains, j'allais dire, de John Dudley. Northumberland, duc de Northumberland. Bon, à cette époque-là, on est en 52, Édouard VI a grandi, il est quand même plus à même de comprendre tout ce qui se passe, toutes les factions, toutes les manigances de la cour, et il va assister à des réunions hebdomadaires traitant des affaires du pays. Bon, les historiens sont pas tous d'accord sur ce point. Bon, on sait qu'il a assisté aux réunions. Maintenant, de là à savoir s'il prenait vraiment part aux décisions ou il faisait acte de présence et n'était finalement qu'un pantin ou bien un jeune homme mûr pour son âge, les avis divergent. Bon, il y aura toujours un débat par rapport à ça, mais on sait quand même qu'il s'entoure de conseillers privés importants et surtout de conseillers privés protestants. Alors quand je vous disais que c'était le premier roi protestant, c'est vraiment le cas, puisqu'il s'entoure de protestants avérés, comme William Cecil, qui, pour vous le resituer, avait rédigé la préface du deuxième manuel de dévotion de Catherine Parr, sixième femme d'Henri, qui avait rédigé deux manuels de dévotion, le premier plutôt catholique et le deuxième aux accents franchement protestants, et c'est lui qui avait rédigé la préface. Donc on connaît ses affinités avec les protestants, et par exemple, donc il devient un des conseillers proches d'Édouard. Et il va mettre en place une politique protestante, tout au moins, en matière de religion. Alors, quand on parle De ça, moi je pense de la relation entre Édouard et Catherine, on sait qu'ils étaient proches tous les deux et que sa dernière belle-mère, hein, Catherine Parr, l'aurait influencée dans ses choix en matière de doctrine. On sait qu'elle avait pris part au choix de ses tuteurs royaux, par exemple. Elle s'était arrangée pour qu'ils soient tous protestants, ou tout au moins en faveur des idées nouvelles. Il existe une lettre qu'il a écrite à Catherine. Alors on revient un petit peu en arrière, hein, puisque c'était fin 45, début 46, mais une lettre que je trouve très jolie, qui montre bien son attachement à Catherine, et qui malgré tout montre la jeunesse du roi, puisque bon, vous allez le voir, c'est une lettre écrite par un enfant, mais finalement une lettre qui montre qu'il était quand même assez mature, puisque je trouve qu'elle est, pas mal et assez claire pour un enfant de 8 ans. Alors la voici, je vais vous la lire, je vais la moderniser. Hein. À la très noble et très excellente reine, je vous remercie, très noble et très excellente reine, de vos lettres, lesquelles vous m'envoyâtes dernièrement, non seulement pour la beauté de vos lettres, mais aussi pour l'invention des mêmes lettres. Car quand je vois votre belle écriture et l'excellence de votre engin grandement précédant mon invention, je n'osais vous écrire. Mais quand je pensais que votre nature était si bonne, que toute chose procédant d'un bon esprit et vouloir serait acceptable, je vous ai écrit cette lettre-ci de ma maison de Hampton Court. Pas mal pour un enfant de 8 ans quand même. Hein. Et Hampton Court revient toujours sur le tapis, hein, le palais royal quand même par excellence qui illustre bien le règne d'Henri. Je vous encourage vivement, si vous allez visiter Londres, de faire un tour à Hampton Court. C'est vraiment un palais formidable. Tout est beau. Les jardins, le jardin botanique, tout est beau. Si vous avez de la chance, vous verrez peut-être un mariage. Ce qui a été mon cas, c'était assez féerique de voir des gens se marier dans un palais comme celui-ci. Bon, revenons à nos moutons. Le petit Édouard est également très proche de Thomas Cranmer. Décidément, il est toujours là, celui-ci. Hein, il a œuvré dans l'affaire du divorce entre Catherine et Henri. Il a marié Anne Boleyn et Henri. Et Cranmer, donc, qui l'avait conseillé lors de son couronnement, va continuer une série de réformes qu'il avait commencées sous Henri, et notamment la réforme dans la confiscation des biens de l'Église, réforme qu'il avait mise en place sous Henri. Donc la réforme bat son plein. Là, on va rendre officielle la croyance dans la justification par la foi, c'est-à-dire que pour les protestants, seule la foi apporte le salut de l'âme, alors que chez les catholiques, on croit davantage aux bonnes œuvres. Plus vous faites de bonnes œuvres, plus vous allez accéder au paradis. Eh bien, chez les protestants, c'est ce qu'on appelle la justification par la foi, hein, chez saint Paul. Et les fidèles et le clergé, d'après Thomas Cranmer, vont communier sous les deux espèces, c'est-à-dire qu'ils vont aussi bien communier, prendre l'hostie et boire le vin, alors que chez les catholiques, le vin de messe est réservé aux prêtres. Et Thomas Cranmer va rédiger et rendre obligatoire ce qu'on a appelé la première loi d'uniformité en 1549, et ce qu'on a appelé également, et qui est toujours utilisé, pas sous cette forme puisqu'elle a évolué, le livre de prière commune dont je vous ai parlé tout à l'heure, la même année. Donc c'est une année assez forte en termes de doctrine sous Édouard. Et Édouard va être aussi influencé par les idées de John Knox, un Écossais qui était venu prêcher à la cour et qui va l'encourager notamment à ne pas s'agenouiller lorsqu'il reçoit la communion. Alors évidemment, on parle de détails, hein, mais on jouait beaucoup sur des détails de toute façon à ce niveau-là. Alors d'autres réformateurs sont également accueillis à la cour, des théologiens qui sont venus du continent, comme Martin Bucer, un Alsacien, dont on célèbre le 522e anniversaire cette année. J'ai vérifié. Et voilà, donc Thomas Cranmer va essayer de clarifier et un petit peu nettoyer toutes les pratiques de l'Église, et notamment clarifier les pratiques de l'Église réformée dans plusieurs textes, et il va rédiger un deuxième livre de prière commune en 52, et une loi d'uniformité qui va vraiment verrouiller toutes les pratiques, puisqu'il va imposer l'utilisation du livre de prière commune et imposer aux fidèles d'assister à l'office du dimanche. Donc on est vraiment dans cette optique d'encourager, même plus de forcer les gens à suivre la religion d'État. Malgré tout, on est en 1552 et Édouard, bien que très jeune, se sent de plus en plus faible. Le voilà, Édouard. Il se sent de plus en plus faible et il se sait malade, il se sait en train de mourir, vraisemblablement, comme je vous disais tout à l'heure, de tuberculose. Alors, il nous reste des témoignages d'époque assez graphiques sur ses souffrances. Et on sait qu'il aurait eu un énorme abcès au poumon lorsque son autopsie a été effectuée. Mais il tient à organiser sa succession, mais il refuse catégoriquement de laisser le trône à sa sœur Marie Tudor, puisque son catholicisme le répugne. Il ne veut absolument pas que sa sœur catholique monte sur le trône. Alors, il tente d'exclure Marie de sa succession, mais ses conseillers lui indiquent qu'il y a quand même une marche à suivre, puisque en excluant Marie de la succession, il est impossible d'exclure Marie sans exclure Élisabeth. Donc, il va décider tout simplement de les déshériter toutes les deux et de leur retirer le trône et de les exclure de la succession, bien qu'Élisabeth soit protestante. Alors, c'est là qu'entre en scène Lady Jane Grey, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Est-ce que j'ai... Voilà, la voici. Lady Jane Grey, qu'il va carrément désigner. Elle a 16 ans à cette période-là. elle a 16 ans et c'est... Oui, bien que ce soit une femme, Édouard va accorder l'exception et il va imposer qu'elle sera la seule femme à monter sur le trône et que seuls ses héritiers mâles pourront monter sur le trône. Donc il utilise cette excuse-là pour lui permettre de monter sur le trône. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est Édouard ou Northumberland qui est derrière le projet, mais quoi qu'il en soit, quand Édouard meurt le 6 juillet 1553, c'est Lady Jane Grey qui va monter sur le trône et qui va y rester très peu de temps, puisqu'elle y reste guère plus d'une semaine, ce qui lui vaut le surnom de Reine de 9 jours. Et elle se fait rapidement évincer par sa cousine Marie Tudor, qui quand même, vert de jalousie, se dit « il n'y a pas de raison, moi je suis la fille d'Henri, pourquoi je ne monterai pas sur le trône ?» Donc elle va tout faire pour se débarrasser d'elle et elle va la faire enfermer à la tour de Londres. Elle va la faire exécuter en raison de sa participation supposée à un complot contre elle-même, contre Marie Tudor, et de la révolte qui a été menée par son père, le duc de Suffolk. Donc elle va vraiment se débarrasser d'elle et on sait que lorsqu'elle est montée, alors je ne sais sûrement pas celui qu'elle tient dans les mains, là le livre de prière, je ne sais pas, ça je ne m'avancerai pas, mais lorsque Lady Jane Grey montait sur l'échafaud, elle tenait dans les mains le livre de prière qui lui avait été donné par Catherine Parr, et sur lequel, et si vous allez sur le site de la British Library, vous verrez qu'elle a indiqué, il a écrit de sa main des prières, sur ce livre de prière. Alors, Marie Tudor va monter sur le trône. Alors, son règne a été, comme celui d'Élisabeth, relaté dans de nombreuses biographies, et pas uniquement dans les pays anglophones. on a de nombreuses biographies en français notamment, et bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dû faire un choix quant aux informations que j'allais vous livrer aujourd'hui, donc... vous me pardonnerez. Marie va arriver sur le trône le 16 juillet 1553 et elle a pour intention de restaurer le catholicisme en Angleterre, le catholicisme étant la religion de sa mère Catherine d'Aragon. Alors, je ne vais pas une fois de plus rentrer dans les détails parce qu'on en aurait pour des heures, mais le 3 août 1553, Marie Première marche triomphalement dans les rues de Londres et elle est accompagnée de sa demi-sœur, Élisabeth et de plus de 800 nobles. Alors c'est vraiment une marche en grande pompe. Et acte symbolique, le premier acte qu'elle décide de faire, c'est de faire relâcher les catholiques qui étaient emprisonnés à la Tour de Londres, qui avaient été emprisonnés sous le règne d'Henri et sous le règne d'Édouard. Donc ça c'est vraiment le premier acte qu'elle décide d'effectuer. Et parmi eux, Stephen Gardiner, qui avait toujours refusé le divorce d'Henri et de Catherine. Il avait eu de la chance de ne pas être exécuté, il avait été simplement, entre guillemets, emprisonné. Et elle va le nommer, elle va nommer Gardiner Lord Chancellor, Lord Chancelier, et c'est lui qui va lui remettre sa couronne le 1er octobre 1553 à l'abbaye de Westminster lors de son couronnement. Marie a déjà 37 ans, elle n'est pas mariée, et elle doit évidemment maintenant sérieusement penser à la dynastie, et pour cela il va lui falloir un mari. Alors, elle veut à tout prix évincer sa sœur, puisqu'elle la sait protestante, hein, Élisabeth, et Élisabeth qui est toujours en lice hein, pour monter sur le trône, hein, puisque il n'était pas impossible que Marie meure jeune et sans enfant, et elle se dit non, hors de question que ma sœur devienne reine. Donc, elle se doit d'assurer la dynastie et d'apporter à la couronne un prochain monarque qui, pour elle, se doit d'être catholique. Alors, son cousin Charles Quint, l'empereur, hein, Charles Quint va lui suggérer tout simplement d'épouser son propre fils, Philippe d'Espagne, héritier de nombreux territoires en Europe, mais aussi de territoires dans le Nouveau Monde, hein, puisque l'Amérique a déjà été découverte. Et on va lui envoyer, on va envoyer à Marie le portrait de Philippe, portrait qu'elle va recevoir en septembre 1553. Bon, finalement, sa mère était espagnole, hein, donc l'idée d'épouser un espagnol ne lui était pas, elle n'était pas opposée à cette idée, mais c'est quelque chose qui est quand même assez discuté à l'époque, parce que Gardiner, donc son Lord Chancelier, aurait préféré un Anglais, en arguant que ce mariage serait plutôt bénéfique à la couronne. Mais qu'à cela ne tienne, Marie décide de l'épouser et étant une femme, hein, ce sera la première femme à monter sur le trône d'Angleterre, les règles sont les mêmes, les biens d'une femme lors de son mariage deviennent les biens de son mari. Donc il fallait bien calculer et il fallait bien choisir son futur mari. Et Philippe, en se mariant avec Marie, va devenir automatiquement roi d'Angleterre. Mais on décide et on se débrouille pour que lors de ce mariage, il ne pourra prendre, enfin au cours de ce mariage, il pourra prendre aucune décision tout seul, aucune décision de son propre chef, et que bien que roi d'Angleterre marié à Marie, ils devront ensemble prendre les décisions concernant le pays. Alors, on va les marier le 25 juillet 1554, deux jours après leur première rencontre. Philippe ne montre aucun intérêt pour Marie, hein, si ce n'est un intérêt diplomatique, hein, il sait que bon, c'est plutôt favorable pour son pays. Marie va toujours en souffrir puisqu'elle semblait assez attachée déjà à son mari, et finalement ne montre aucun intérêt pour elle. Elle va être assez intéressée, va vouloir connaître son mari davantage, mais ils ont des difficultés à se comprendre puisque Philippe ne parle pas anglais, et ils vont parler un mélange de latin, français, espagnol, enfin ils se débrouilleront un petit peu comme ils pourront. À partir de 1554, Marie va se penser enceinte et elle grossit. Hein. Elle est prise de nausées, elle a tous les signes typiques d'une femme enceinte, mais rien, pas de naissance. Alors, Marie, d'après les historiens, hein, d'après ce que j'ai pu lire, Marie aurait fait ce qu'on appelle une grossesse nerveuse. Elle était tellement obsédée par l'idée d'apporter un héritier et puis d'avoir un enfant que finalement elle en avait tous les symptômes, mais elle n'a pas d'enfant. Et Philippe va vivre ça assez mal, hein, plutôt comme un affront. Il va quitter l'Angleterre. Bon. Pas simplement pour ça, hein, pour des raisons aussi militaires, puisqu'il va commander ses armées en Flandre. Et Marie, apparemment très attachée à son mari, va tomber dans une profonde dépression, finalement. Alors, du point de vue doctrinal, je vous l'ai dit, hein, elle voulait remettre en place le catholicisme et elle va faire emprisonner, après avoir délivré des catholiques, elle va faire emprisonner des protestants et notamment un protestant avéré dont je vous ai beaucoup parlé, Thomas Cranmer. En 1553, elle va réunir son premier parlement qui va réhabiliter sa mère, Catherine d'Aragon, et qui va déclarer le mariage de ses parents, donc Catherine d'Aragon et Henri VIII, valide. Donc elle tient, Marie Tudor tient à remettre les choses en ordre. Et elle souhaite également que la doctrine et la liturgie reprennent les formes, reprennent leur forme d'avant 1539, d'avant tous les changements qui ont été effectués sous Henri. Et elle va, par exemple, invalider toutes les lois qui ont été votées par son frère. Marie signe également un accord avec le pape, Jules III, selon lequel les biens monastiques qui ont été confisqués par Henri VIII, hein, vous vous souvenez de la confiscation des biens de l'Église, resteraient aux mains de leur nouveau propriétaire, parce qu'elle ne pouvait pas revenir en arrière autant que ça, mais elle signe un accord avec le pape, restaurant l'autorité du pape, et l'autorité du pape voilà, sera rendue au Saint-Siège. Donc elle réussit un retour en arrière dans une certaine mesure. Et fin 1554, le pape va accepter cette loi et va accepter cet arrangement et une loi sur l'hérésie est votée. Alors évidemment, sont considérés comme hérétiques les protestants sous le règne de Marie. Alors, de nombreux protestants vont choisir l'exil. Ils vont partir sur le continent, comme John Fox, par exemple, qui est devenu assez célèbre puisqu'il va publier ce qu'on appelle un martyrologe, c'est-à-dire comme une liste avec une liste biographique de tous les martyrs protestants de l'époque, qu'il a appelé tout simplement le livre des martyrs. Et il est également connu pour ce qu'il a intitulé les actes et monuments. Donc il fait partie des exilés. D'autres n'auront pas cette chance puisque d'autres protestants seront brûlés vifs sur le bûcher, comme le célèbre Thomas Cranmer qui va être brûlé vif en 57. En tout, sous le règne de Marie, 283 hérétiques, c'est-à-dire donc protestants, vont périr, et c'est ce qui lui a valu le surnom de Marie la sanglante, Marie la sanguinaire, en anglais Bloody Mary. Vous ne verrez plus jamais votre vodka tomate du même œil, puisque tout cela, en sirotant votre cocktail, vous penserez à tous ces pauvres hérétiques brûlés. Voilà, donc c'est vraiment finalement la chose pour laquelle on se souvient le plus d'elle. Ça c'est d'un point de vue doctrinal, d'un point de vue ce qui concerne sa politique étrangère. Marie donc est toujours mariée à Philippe II hein, d'Espagne. Et, Philippe va rentrer en Angleterre après sa campagne dans les Flandres, donc il va rentrer en juillet 57 et il va tenter de persuader sa femme d'entrer en guerre avec la France. Elle est plutôt pour, les conseillers de Marie sont plutôt réfractaires et l'Angleterre va perdre sa dernière possession sur le continent, en Europe continentale, c'est-à-dire Calais, en janvier 1558, ce qui est un gros coup en fait pour Marie d'un point de vue personnel et puis pour son règne, puisqu'elle y voit une perte symbolique. Non seulement elle n'arrive pas à avoir d'enfant, en plus elle perd sa seule possession en Europe continentale. L'Angleterre va perdre sa présence sur le continent, ce qui est quand même un gros coup. Et d'après les chroniques des chroniqueurs de l'époque, hein, dont un qui s'appelait Holinshed, Marie aurait évoqué son regret quelque temps plus tard en disant, je cite, « À ma mort, quand vous ouvrirez mon cœur, vous y trouverez qu'elle est. » Donc c'était vraiment pour elle quelque chose de difficile qui lui avait tenu à cœur. Rien ne va plus non plus d'un point de vue financier hein, en Angleterre, puisque la pluie va s'abattre sur le pays pendant pratiquement tout son règne. Et il va ruiner toutes ses récoltes. Donc, peu de rentrées d'argent, le pays va mal, et malgré son alliance, enfin son mariage et donc son alliance avec l'Espagne, l'Angleterre ne va tirer aucun bénéfice des richesses du Nouveau Monde, puisque ça reste évidemment chasse gardée par l'Espagne. Donc le rêve de Marie est assez noir, j'allais dire, hein, et son dernier espoir va se révéler en 1557, lorsqu'elle se croit de nouveau enceinte, et qu'elle se dit qu'elle va enfin pouvoir apporter un héritier à la couronne d'Angleterre, et elle a tout bien calculé, puisqu'elle pense accoucher en mars 58, et elle va même nommer son mari régent, au cas où elle viendrait à décéder pendant l'accouchement, mais point de salut, point d'enfant non plus, Marie est de plus en plus affaiblie, et elle va mourir, en fait, pas du tout en couche, puisqu'en fait, elle n'était pas enceinte. Elle serait vraiment vraisemblablement morte d'un cancer, un cancer d'utérus, en mai 58, à l'âge de 42 ans. Donc, son règne n'aura pas duré longtemps. Elle a régné de 53 à 58 et se finit mal. Enfin, on a quand même une image assez, j'allais dire, négative, assez noire de son règne, hein, entre le fait qu'elle aura brûlé des protestants, elle n'aura pas fourni entre plein de guillemets d'héritier à la couronne, ses relations en Europe sont assez négatives, donc c'est un règne assez noir. Et vraiment, peu de chance pour elle, souhaitait vivement être enterrée auprès de sa mère, Catherine d'Aragon, et malgré tout on enterre à Westminster le 14 décembre de cette même année, et c'est une tombe qu'elle va partager avec sa demi-sœur lorsque celle-ci mourra, hein, Elisabeth, en 1603, et on va inscrire sur sa tombe, alors en latin, je vous lis la traduction, « Partenaire dans le royaume et tombe, ici nous reposons Elisabeth et Marie, sœurs dans l'espoir de la résurrection. » Donc les rois qui leur ont succédé, hein, les rois Stuart, ont fait ajouter, il me semble que c'est Charles, de mémoire je ne me souviens plus lequel a fait ajouter cette épitaphe, mais on les a rassemblés, hein, la reine catholique et la reine protestante, hein, sœurs toutes les deux dans la tombe. Donc c'est assez symbolique. Et donc à la mort de Marie, ce sera sa demi-sœur, hein, la dernière, Marie. J'ai oublié de vous montrer Marie. Donc voilà Marie. Voilà Philippe. Et voilà Élisabeth. Ce sera Élisabeth qui lui succédera le 17 novembre 1558. Et elle deviendra la cinquième, et on le sait, hein, elle ne le sait pas, dernier monarque Tudor, et celle dont le règne est le plus long, puisqu'elle a régné pendant 45 ans. Alors, pareil, elle ressemble énormément à son père, hein, elle est rousse comme son père, et donc là c'est à 13 ans, 1546, hein, à l'époque à laquelle elle était encore dans l'entourage au palais de Sadley, dans l'entourage de Catherine Parr, où elle aurait eu une petite histoire avec Thomas Seymour, et en 58, le jour de son couronnement, enfin peut-être pas le jour, mais tout au moins c'est un portrait montrant son couronnement, tout au moins son apparat de couronnement. Alors, elle a régné 45 ans et elle est surtout connue par ses surnoms, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, la Reine Vierge, Gloriana, la Reine Vierge du fait qu'elle ne s'est jamais mariée, et rares finalement sont les monarques et les personnes qui peuvent s'enorgueillir d'avoir donné leur nom à une période de l'histoire, hein, c'est le cas d'Elisabeth, c'est le cas de la reine Victoria, hein, des reines, hein, de façon, enfin, c'est intéressant de se pencher sur la question. On va parler de période élisabéthaine, de théâtre élisabétain, hein, avec Shakespeare. Elle a vraiment marqué son temps et elle a su, bon, elle a eu le temps, me direz-vous, redresser le pays mis à mal finalement par toutes les malchances de sa sœur, malgré elle. Hein. Élisabeth a un caractère très très fort. Elle aime régner seule. Elle n'aime pas convoquer son parlement. Hein. Elle va le convoquer seulement 13 fois en 45 ans, ce qui est très peu. Mais son règne est célèbre pour ses richesses culturelles, hein, je vous parlais de la période élisabéthaine, théâtre élisabéthain, et il va vraiment témoigner de l'âge d'or de cette période, hein, de la Renaissance des arts, du théâtre. en particulier. Et voilà. Et son règne est également marqué par de nombreuses prouesses, des prouesses en mer, hein, et par les premières colonies en Amérique. Vous savez sûrement que l'État de Virginie, aux États-Unis, a été nommé Virginie par rapport à son nom, Reine Vierge, Virginia, entre autres. Mais une de ces autres prouesses a été qui a marqué son règne plutôt, ça a été un retour ferme au protestantisme. Et à partir de là, on a vraiment un protestantisme affirmé à la cour. Donc, elle est fille d'Anne Boleyn, enfin c'est la fille d'Anne Boleyn plutôt. La seule, hein. Évidemment, elle est très contestée par les catholiques, elle est considérée par eux comme une bâtarde, alors qu'elle est portée au nu par les protestants, qui eux étaient partis en exil pendant le règne de sa sœur, notamment sur le continent. Aussi, certains commencent à partir en Amérique. Et en 1558, les Français vont soutenir Marie Stuart, qui était sa cousine catholique, elle, et qui, eux, la soutenaient pour monter sur le trône d'Angleterre. Pour remettre les choses dans leur contexte, en fait, les deux tiers des Anglais étaient toujours catholiques en pratique, et une fois couronnée, Élisabeth va rester suffisamment discrète sur ses opinions, tout au moins au début, en matière de doctrine, puisqu'elle va observer un petit peu les choses et voir comment les choses se passent. Donc, elle a tout d'abord évité de se mettre à dos les monarques catholiques, hein, ce qui était très intelligent de sa part, et elle va signer un traité de paix avec la France en 1559, c'est ce qu'on a appelé le traité de Cateau-Cambrésis, qui va mettre un terme à la guerre, cette guerre qui avait été commencée sous Marie. Mais bien vite, Élisabeth va quand même retrouver ses premiers amours et nommer des conseillers qui, eux, étaient acquis aux idées de la réforme, comme William Cecil, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui va, avec elle, manifester le désir de restaurer la doctrine et la liturgie telle qu'elles avaient été mises en place par Henri VIII, hein, et Édouard. Donc on efface, hein, elle souhaite presque, j'allais dire, effacer tout ce qui s'est passé sous Marie pour revenir aux réformes mises en place par son père. Alors les deux camps, les catholiques et les protestants, vont tenter de trouver un compromis, mais elle va pousser vers un protestantisme plus évident, hein, plus ferme, et bien que finalement l'Église d'Angleterre sous Élisabeth soit à mi-chemin entre le catholicisme et le luthérianisme. Donc c'est ce qu'on a appelé, enfin tout au moins dans les pratiques, hein, c'est ce qu'on a appelé la via media, hein, le compromis élisabétain si vous voulez. Hein. Et c'est ce qu'elle va mettre en place en convoquant son premier parlement en janvier 1559. Le Parlement va faire voter une loi de suprématie qui va changer les mots qui avaient été désignés par son père chef suprême de l'Église d'Angleterre à gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Et elle va faire également voter, tout comme son frère, une loi d'uniformité qui va imposer à tout ecclésiastique l'utilisation du livre de prière commune de 1552 sous peine de poursuite. En un mot, les poursuites, c'était très simple, hein, ça évoquait la persécution, le procès et éventuellement la peine de mort. Donc on avait tout intérêt à suivre ce qui était prescrit. Cette loi d'uniformité, elle impliquait également un système d'amendes qui était très commode, puisque ces amendes étaient destinées à tous ceux qui n'assistaient pas, comme l'autre loi d'uniformité, au service dominical. Donc si on n'allait pas à la messe le dimanche, on avait une amende. Et en 53, elle fait nommer de nouveaux évêques et elle va les rassembler pour organiser les nouveaux fondements de sa liturgie, la liturgie anglicane, avec la promulgation de ce qu'on a appelé les 39 articles, qui vont être une révision des 42 articles de Cranmer, qui lui avait péri brûlé sous Marie. Donc ces 39 articles vont être révisés. Et une loi d'adhésion va être votée en 71, donc un peu plus tard, forçant tous les membres du clergé à reconnaître ces articles. Donc elle va vraiment visser, elle va vraiment tout verrouiller pour que la liturgie et surtout les Anglais deviennent protestants. Alors bien sûr, les choix d'Élisabeth en matière de doctrine vont rencontrer des oppositions. bien sûr, de la part des catholiques, hein, mais aussi, c'est-à-dire, c'est de loin, hein, la loi d'uniformité, la loi de suprématie, mais aussi de la part des protestants. Il y a des dissidences aussi bien chez les catholiques que chez les protestants. Les catholiques de l'époque, on va les appeler les réfractaires, les récusants, qui refusent tout ce qui touche de près ou de loin au protestantisme, même modéré, alors que on a des radicaux au sein des protestants qui, eux, sont issus pour la plupart des exilés, pour des protestants exilés sous Marie, eux, ces réfractaires, sont plus connus sous le nom de puritains, parce qu'ils souhaitent ôter toute corruption au sein de l'Église et purifier l'Église qui est, comme ils le disent, en pratique papiste, c'est-à-dire encore trop catholique pour eux. Et malgré tout, l'Église d'Élisabeth, elle va conserver quelques éléments catholiques. C'est pour ça que je vous parlais de Via Media. Alors, des éléments catholiques, je vous en cite deux ou trois, c'est-à-dire la génuflexion lors de la communion, on se met à genoux pour communier, la tradition vestimentaire des ministres du culte, ou bien, par exemple, l'utilisation de la croix pour le baptême. C'est des choses très symboliques, hein, ça se joue à très très peu de choses, à des détails, hein, mais voilà les choses sur lesquelles on n'était pas d'accord et sur lesquelles on discutait beaucoup. Alors, évidemment, hein, elle est protestante, donc certains catholiques vont essayer de la renverser et de la remplacer par quelqu'un qu'ils jugent plus à même de régner, c'est-à-dire, par exemple, Marie Stuart, sa cousine, qui est Marie Ire d'Écosse et qui avait, elle, fui l'Angleterre en 1568. Et en 69, un groupe de nobles catholiques issus du Nord, hein, souvent les révoltes arrivaient du Nord, donc ce groupe-là va tenter de faire envahir l'Angleterre par des troupes espagnoles, et c'est ce qu'on a appelé le soulèvement du Nord, également nommé révolte des comtes du Nord ou rébellion du Nord, et malgré tout, pas de chance pour eux, la révolte va échouer et Élisabeth va rester sur le trône d'Angleterre. Et en 70, un an plus tard, Élisabeth va être excommuniée par le pape, tout comme son père l'avait été en 1538, ce qui signifie pour les catholiques que finalement, ils vont pouvoir désobéir à la reine, puisqu'ils ne doivent plus suivre ses prescriptions. Enfin, toute proportion gardée, bien évidemment. Donc, dès la publication de l'excommunication d'Élisabeth, il y a de nombreuses révoltes qui vont voir le jour. Je peux vous en citer deux. Une en 71, ce qu'on appelait le complot de Ridolfi, et une en 83, celui de Throckmorton. Et c'est suite au complot de Babington, un autre complot, qu'elle va décider de se charger sérieusement de ces complots, et surtout de se charger de sa cousine Marie Stuart, puisque finalement tous ces complots étaient destinés à faire remonter Marie sur le trône, donc elle va décider de s'occuper d'elle, et qui était apparemment au cœur du complot, Marie Stuart qui était apparemment au cœur d'un complot visant à faire assassiner Élisabeth, bien évidemment. Et Élisabeth va décider de faire exécuter sa cousine en 1587. Alors, on sait que Marie Stuart était experte dans l'art du chiffre et qu'elle échangeait de nombreuses lettres codées avec ses partisans. Elle était, elle leur écrivait beaucoup et ses courriers sont volés, ils sont déchiffrés et vraisemblablement modifiés par les partisans d'Élisabeth et utilisés comme preuve de complot en disant voilà ce qui est dit dans ces courriers et voilà. La preuve que Marie Stuart tente de renverser la reine. Évidemment, c'est un prétexte, on sait que c'était faux. Ah, donc Marie est suspectée de complot et elle est exécutée, comme je vous l'ai dit, en 87 à 10h du matin. Elle va se déclarer elle-même martyre catholique et énorme symbole le jour de son exécution, on va écraser son crucifix sur l'échafaud. Donc là, c'est vraiment un symbole fort du règne du règne d'Élisabeth. Et une fois de plus, pour la petite histoire, d'après les témoignages, son bourreau était ivre-mort le jour de son exécution, et il s'y serait pris, pauvre Marie, à trois reprises pour la décapiter, et je pense que cette brave femme a vu la mort arriver. Alors, Élisabeth va utiliser l'exécution de Marie Stuart comme un exemple pour illustrer ses réformes, réformes répressives pour le coup, et à partir de 81, près de 250 catholiques sont torturés et exécutés pour trahison. Donc on avait tout intérêt à suivre la religion d'État. Alors les puritains, donc les protestants plus extrémistes, j'allais dire, quant à eux, étaient relativement nombreux, au Parlement notamment, et ils vont penser, puisqu'ils se sentent en odeur de sainteté, pouvoir s'opposer plus facilement ou plus ou moins directement à la reine. Et en 70, par exemple, deux parlementaires vont s'opposer aux réformes de la hiérarchie du clergé, et malgré tout, bien que protestants mais puritains, ils vont être emprisonnés. Et également, autre exemple, l'archevêque de Canterbury va être démis de ses fonctions puisqu'il était jugé trop proche des puritains. Donc elle mène quand même une réforme très stricte, une politique très stricte. Elle se sent menacée par les puritains. Cette menace puritaine était pour elle vicieuse puisqu'elle arrivait de l'intérieur à l'arrivée du gouvernement. Donc là, c'était plus difficile à gérer. Et les puritains vont également refuser cette rigidité qu'elle a imposée, la rigidité imposée par la monarchie. Ils vont demander, par exemple, que les ministres du culte soient élus et non nommés par le monarque, ce qui leur semble plus démocratique à l'époque. En fait, ils voulaient une sorte de démocratie au sein du clergé. Et Élisabeth, évidemment, n'entendait pas de cette oreille. Elle n'était pas du tout d'accord avec cette façon de voir les choses. Donc Élisabeth, je vous l'ai dit, elle a convoqué le Parlement 13 fois en 45 ans, elle avait une relation très tendue avec lui, et dès le début, puisque en fait ce Parlement avait toujours souhaité qu'elle se marie, et qu'elle était assez réfractaire au mariage. En plus, c'est une femme, elle sait qu'elle doit d'autant plus asseoir son autorité, donc elle va vraiment être très... très sévère, hein, je dirais, c'est avant l'ère Thatcher, une main de fer dans un gant de velours, me semble-t-il. Et elle va faire appel davantage à son conseil privé qu'à son parlement, mais elle convoque très très peu le parlement. Bon, évidemment, elle sait qu'elle ne peut pas malgré tout régner seule et qu'elle va avoir besoin du Parlement pour faire voter ses lois et gérer ses impôts, hein, notamment vers la fin de son règne où elle était constamment en guerre contre l'Espagne et qu'elle a besoin d'argent. Et si elle veut de l'argent, elle a besoin du Parlement, et le Parlement va profiter de ce pouvoir-là puisque c'est le seul qui lui est attribué. Mais elle ne souhaite pas accorder davantage de pouvoir au Parlement. Donc comment va-t-elle faire? Et bien, elle va trouver d'autres moyens d'obtenir de l'argent. Elle va vendre des monopoles. Des monopoles, qui vont donner à l'acquéreur de ces monopoles le contrôle total sur un type de commerce, par exemple. Donc, par conséquent, quand elle va réunir pour la dernière fois et elle leur dit le Parlement en 1601, elle meurt en 1603, hein, donc en 1601, elle convoque une dernière fois son Parlement, le Parlement va se plaindre de l'état du commerce anglais en disant que tout tourne en vase clos et qu'il n'est dans les mains que de quelques personnes et qu'il n'y a aucune concurrence. Et pour obtenir de l'argent, elle va trouver d'autres moyens, donc elle va vendre des monopoles, mais elle va vendre aussi des titres, elle va vendre aussi des postes au sein du gouvernement, enfin, elle va vendre plein de choses, et tant qu'à faire, elle va se débrouiller aussi pour punir ceux qui lui ont été défavorables, elle va, par exemple, confisquer des terres à ceux qui avaient comploté contre elle. Mais elle ne tient vraiment pas à utiliser, enfin, elle donne le minimum de pouvoir à son Parlement. Alors, en réaction à sa politique financière, hein, les membres du Parlement vont envisager d'introduire un système pour lutter contre tous ces monopoles, hein, comme je vous disais, tout tourne en vase clos, hein, il n'y a pas de concurrence. Et ce système pour lutter contre ces monopoles viserait en fait à altérer ses prérogatives royales et le Parlement pourrait obtenir davantage de pouvoir. Et en fait, c'est la première fois que le Parlement va envisager une telle chose, puisque là, il va mettre en avant l'intérêt du pays en disant « il n'y a pas de concurrence, il faut absolument qu'on trouve un moyen ». Donc la reine va être obligée de faire des concessions, elle va annuler 12 monopoles et elle va autoriser ses sujets à demander réparation, par exemple les sujets dont elle avait confisqué les terres. Et en faisant ça, finalement, c'est très commode et intelligent de sa part, puisqu'elle va regagner le respect de ses parlementaires et éviter toute crise politique et tout soulèvement, j'allais dire. Mais malgré tout, le Parlement a soif de liberté, hein, on est au début du XVIIe siècle, et il obtiendra alors... Pas tout de suite, hein, puisque ce sera davantage sur les Stuarts et au XVIIe siècle, davantage de liberté, mais malgré tout, on sent que d'un point de vue politique, gestion du pays, le Parlement déjà ouvre la brèche et profite un petit peu des faiblesses. Alors évidemment, on pourrait parler d'Élisabeth pendant des heures. Hein, je vous ai parlé j'ai pas parlé des victoires militaires, mais elle en a eu, je pense à la victoire de l'invincible Armada en 1588. Plein de choses se sont passées sous son règne, mais bon, le temps nous manque. Et elle va mourir en 1603, après avoir régné, je vous l'ai dit, 45 ans. Et avec elle, ne s'étant pas mariée et n'ayant pas eu d'enfant, va s'éteindre la dynastie Tudor. Et pour conclure cette série de cours, je dirais qu'en fait la dynastie Tudor a vu de grands monarques s'asseoir sur le trône. On a vu Henri VII qui a su redresser le pays de ses dettes. On a vu Henri VIII qui a créé un précédent en se séparant de Rome. Édouard qui a été le premier roi protestant. Marie qui a été la première reine régnante, première fille de roi, sœur de roi et femme de roi. Et on a vu Élisabeth, première reine protestante, à monter sur le trône. Donc c'est vraiment une dynastie qui a créé le précédent, c'est pour ça que je la trouve fascinante. Et finalement, peut-être avait-il tous raison, surtout Henri VIII quand il disait que ses mariages étaient maudits, puisque aucun héritier Tudor n'est monté sur le trône après Élisabeth, et la dynastie s'est éteinte en 1603 pour accueillir les Stuarts à l'aube du XVIIe siècle. Voilà. Je vous remercie de votre attention.